VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Tchad, recours de l'opposition pour annuler la nouvelle constitution.
En République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu dénonce l'affairisme des services de sécurité congolais dans cette province.
Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko ont saisi l'ONU pour réclamer la libération de l'ex-candidat à la présidence.
Deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique ont attaqué hier le siège de la commission électorale à Tripoli en Libye.
Mike Pompeo, le nouveau chef de la diplomatie américaine, convaincu de l'existence d'une opportunité sans précédent de changer le cours de l'histoire dans la péninsule coréenne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
Au Tchad, des députés de l'opposition ont déposé hier un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de la loi sur la nouvelle constitution adoptée lundi. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
26 députés de l'opposition sont à l'origine de cette demande d'annulation de la loi portant adoption de la constitution de la 4e République. Elle a été adoptée lundi par 132 voix pour. Seuls deux députés de l'opposition étaient présents dans l'hémicycle et ont voté contre. Les autres ont boycotté le scrutin pour protester contre l'adoption du projet de révision constitutionnelle par voie parlementaire. L'opposition, des organisations de la société civile et l'Église catholique avaient demandé qu'il soit adopté par référendum. Le texte est issu des résolutions d'un forum national tenu en mars, mais boycotté par l'opposition et une partie de la société civile. Il renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral. Le chef de l'État a 8 jours à compter de la date d'adoption pour promulguer la nouvelle constitution.
En République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu dénonce l'affairisme des services de sécurité congolais dans cette partie du pays où les groupes armés tuent des civils sans protection. Une lettre signée par les églises, les avocats et les ONG a été adressée au président Joseph Kabila. Les détails avec Eddie Isango.
Dans la lettre, la société civile du Nord Kivu révèle qu'au moins 1343 personnes ont été tuées en 2 ans dans les territoires des Beni et des Lubero. Les auteurs de la lettre dénoncent des centaines de cas d'enlèvement, les viols de plusieurs centaines de femmes, la destruction d'écoles et des centres de santé. Dans les grands centres, on assiste impuissamment à l'affairisme des services de sécurité, précise la lettre citant l'Agence nationale des renseignements, ANER, dirigée par un proche du chef de l'État, la police et l'armée. Les églises, les avocats et les ONG interpellent les gouvernements congolais et la communauté internationale à saisir la Cour pénale internationale CPI. La procureure générale de la CPI, Fatouma Bensouda, est arrivée mardi à Kinshasa où elle doit rencontrer des responsables officiels et tenir une conférence de presse.
Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-candidat à la présidentielle en prison, ont saisi les Nations Unies et veulent saisir d'ici à la fin de la semaine la Commission africaine des droits de l'homme pour réclamer de la libération de leurs clients détenus arbitrairement selon eux. Ils ont par ailleurs annoncé avoir été informés mercredi du renvoi du procès du détenu devant la cour criminelle. Le procès devait initialement s'ouvrir fin mars. Le général Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée congolaise, a été incarcéré pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre.
Un cas impliquant au Texas, le fils de l'ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré met en exergue ici aux États-Unis le trafic des êtres humains et le travail forcé. Mohamed Touré, qui est âgé de 57 ans, et sa femme Denise Touré sont en résidence surveillée pour avoir, dit-on, amené de Guinée une fillette de 5 ans et l'avoir forcée à travailler sans salaire comme aide domestique et nounou pendant 16 ans. Les Touré risquent jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables. Ils se disent innocents.
En Gambie, 2 généraux de l'ex-président Yahya Jammeh, accusés de désertion, ont plaidé non coupables hier devant une cour martiale de Banjul. Ils avaient suivi en exil l'ex-dirigeant gambien en janvier 2017, avant de rentrer dans leur pays 1 an plus tard. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Les généraux Ansumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendi, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier, peu après leur retour de Guinée équatoriale. Ils sont poursuivis pour désertion de poste et risquent la prison à perpétuité. Après la lecture des charges pesant contre eux, les deux hommes ont indiqué qu'ils plaidaient non coupables. Lors d'une audience début avril, les avocats de la défense avaient vainement essayé de récuser la cour martiale, estimant que leurs clients ne faisaient plus partie de l'armée puisque leur salaire avait été suspendu après leur départ du pays et que leurs équipements leur avaient été retirés peu après leur retour en Gambie. Le procès avait ensuite été ajourné à deux reprises, le juge exigeant tout d'abord que les deux généraux comparaissent en uniforme, puis afin de permettre à l'État de désigner des avocats commis d'office. Les prochaines audiences sont fixées au 9 et 10 mai. La sécurité de la Gambie est toujours assurée par la force de la CDAO.
Deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique ont attaqué hier le siège de la commission électorale à Tripoli, tuant 12 personnes et faisant 7 blessés. Et ce, au moment où la communauté internationale appelle de ses voeux à des élections en 2018 pour sortir la Libye de l'anarchie. Deux autorités se disputent aujourd'hui le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, est basé à Tripoli, et un gouvernement parallèle exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du puissant maréchal Khalifa Haftar.
Et à noter concernant le maréchal Haftar qu'une poursuite judiciaire a été lancée en France contre ce commandant libyen. Il est accusé de torture et de barbarie, selon l'avocate du plaignant Rachel Lindon. Le point avec Irénée Herman Oungbo.
La plainte a été déposée par Rachel Lindon au nom de son client, un Libyen vivant au Canada. Il veut que la justice française ouvre une enquête sur les opérations de l'armée nationale libyenne pour élucider les conditions dans lesquelles plusieurs membres de sa famille ont été tués alors qu'elle tentait de contrôler la ville de Benghazi. Le présumé coupable est Khalifa Haftar, chef d'une faction armée qui contrôle la partie est de la Libye. La poursuite a été lancée contre lui alors qu'il se trouve en France pour des raisons médicales. Khalifa Haftar a été l'un des hommes clés de l'armée libyenne au temps de Muammar Kadhafi. Son influence règne toujours dans la partie est du pays et s'étend également dans le sud libyen. En octobre dernier, une plainte avait déjà été déposée contre lui aux États-Unis pour crime de guerre par un activiste indépendant.
Une infirmière allemande du Comité international de la Croix-Rouge a été enlevée hier soir par des hommes en armes dans un ensemble résidentiel de Mogadiscio, a annoncé aujourd'hui le CICR. C'est une infirmière qui travaille tous les jours pour sauver des vies et soigner les gens les plus vulnérables en Somalie, a souligné Daniel O'Malley, directeur adjoint du CICR pour la Somalie. Le CICR a indiqué être en contact avec les autorités pour essayer d'obtenir sa libération.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le nouveau secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, est convaincu qu'il y a une opportunité sans précédent de changer le cours de l'histoire dans la péninsule coréenne grâce au sommet que le président Donald Trump doit avoir avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Parlant hier au département d'État après sa prestation de serment en présence du président Trump, M. Pompeo a souligné « Une chose est sûre, cette administration ne répétera pas les erreurs du passé, nous avons les yeux grands ouverts ». Il a également déclaré « Nous sommes déterminés à obtenir le démantèlement permanent, vérifiable et irréversible du programme nord-coréen d'armes de destruction massive et à l'obtenir sans délai ».
Toujours à Washington, Emmett Flood, un avocat qui avait échoué dans ses tentatives d'épargner l'impeachment ou la procédure de destitution à l'ancien président Bill Clinton, va se joindre maintenant à la défense du président Trump. Monsieur Flood, qui a également travaillé à la Maison-Blanche sous George W. Bush, doit succéder à l'avocat Ty Cobb, qui part à la retraite. L'arrivée de Flood coïncide avec un possible bras de fer entre la Maison-Blanche et le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Un consensus se serait dégagé ces dernières semaines au sein de l'équipe Trump sur l'adoption d'une stratégie judiciaire plus combative face à M. Mueller, qui insiste pour interroger directement le président américain.
Les États-Unis continueront d'envoyer au centre de détention militaire de Guantanamo, à Cuba, des terroristes présumés capturés sur le champ de bataille, et ce, tant qu'ils présenteront une menace persistante et significative pour la sécurité de l'Amérique. Le Pentagone a soumis hier à la Maison-Blanche une mise à jour de ses recommandations sur les critères de transfert d'individus à cette prison. Le président Trump, qui avait promis de garder Guantanamo ouvert pendant sa campagne électorale, avait requis cette mise à jour dans un décret signé en janvier dernier.
Un avion cargo militaire américain qui effectuait son dernier vol après avoir été en service pendant 60 ans s'est écrasé hier sur une autoroute de la Géorgie, dans le sud des États-Unis, tuant, dit-on, tous ses 9 passagers et membres d'équipage. Les responsables militaires n'ont pas encore fourni de bilan officiel, mais on doute qu'il y ait eu des survivants. L'appareil appartenait à la garde nationale de Porto Rico.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Cameroun a réduit son déficit budgétaire de près de 4 points de son produit intérieur brut entre 2016 et 2017. D'après la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, il s'agit des effets des mesures budgétaires prises par Yaoundé à la faveur de la baisse des prix des matières premières sur le marché international en 2015. Cette situation avait provoqué un sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC en décembre 2016 à Yaoundé. Le Cameroun a intensifié la collecte des recettes non pétrolières et atteint 1936 milliards de francs CFA en 2018. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, lance une initiative pour offrir 100 000 emplois aux diplômés au chômage à travers le pays. Cette initiative coûtera plus de 13 millions de dollars et permettra de recruter immédiatement environ 462 diplômés au chômage dans chacun de 216 districts que compte le pays. Le programme veut réduire le taux de chômage au Ghana et construire l'un des projets phares du mandat du président Nana Akufo-Addo. Il sera directement géré par ses services. L'Éthiopie va prendre une participation dans le port de Djibouti. Les experts vont d'abord évaluer la valeur et les bénéfices du port pour déterminer la taille de cette participation. En contrepartie, Djibouti aura la possibilité de prendre des parts dans des entreprises publiques éthiopiennes. Un accord officiel sera signé entre l'Éthiopie et Djibouti d'ici 2 mois.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
11 ans après, Liverpool accède à la finale de la Ligue des Champions.
Et oui, après une bonne entame de match, Liverpool a perdu à Rome 4-2. Mais cette défaite est sans incidence puisque les Reds ont conservé leur avance de la demi-finale. Après leur victoire à l'aller 5-2, Liverpool de Mohamed Salah défiera donc le Real Madrid en finale le 26 mai prochain à Kiev. Sadio Mané avait ouvert le score pour les Reds. On rappelle que ce sera la première finale de la C1 pour Liverpool depuis 2007. Liverpool qui pourra compter sur son incroyable trio Salah, Firmino, Mané et qui tentera de faire exploser le Real Madrid, double tenant du titre.
Et les demi-finales en Europa League ce jeudi.
Après le match nul un but partout à l'aller, la demi-finale retour de l'Europa League s'annonce pleine de suspense entre l'Atlético Madrid et Arsenal. L'Atlético qui peut s'appuyer sur sa solidarité à domicile et surtout sur ses bonnes performances européennes. Tenez-vous bien, 2 titres en Europa League en 2010 et en 2012 et 2 finales de la Ligue des Champions en 2014 et 2016. L'autre demi-finale, l'Olympique de Marseille qui se déplace à Salzbourg après sa victoire 2-0 à l'aller. On rappelle que la dernière finale pour les Marseillais, ça remonte à 2004, une finale de Coupe de l'UEFA perdue contre Valence.
Camara prolonge en Ligue 1.
Oui, l'attaquant sénégalais Souleymane Camara, libre en juin prochain, a prolongé son contrat à Montpellier pour une durée d'un an. Camara, âgé de 35 ans et formé à Monaco, s'apprête à disputer sa 12e saison à Montpellier où il est arrivé en 2007 en provenance de Nice sous forme d'un prêt. L'ancien international sénégalais, 35 sélections, compte près de 400 matchs en Ligue 1. Il est aussi le meilleur buteur en exercice de Montpellier avec 71 buts. Il a disputé 24 matchs cette saison. Allez Drissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Un seul match et en conférence ouest, le Utah Jazz a battu les Houston Rockets 116-108, égalisant ainsi leur série, une victoire partout.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, 27 formations politiques et une coalition d'indépendants ont commencé la campagne référendaire relative au vote du 17 mai sur l'amendement constitutionnel. Sans suspense, le oui devrait l'emporter. Reportage de Christophe Korunziza, correspondant de VOA Afrique à Bujumbura.
Des camionnettes double cabine avec des haut-parleurs appellent les habitants de la capitale à voter oui ayant un Kirundi. Sur l'avenue de l'Université du Burundi, séparant les quartiers Biza et Nyakabiga du quartier Rohero, au centre-ville de Bujumbura. D'autres voitures se dirigent vers les provinces de Gitega, au centre du Burundi, où les sympathisants du parti présidentiel CNDD-FDD ont lancé leur campagne pour voter oui à l'amendement du projet de l'actuelle constitution. D'autres voitures scandent des slogans pour voter vers le stade de Muremera, la province de Ngozi, au centre du pays, où se dirigent les partisans de la coalition Amizero Warundi, à la tête de laquelle se trouve l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa. Mais dans les ruelles de la capitale Bujumbura, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Certains habitants de la capitale, comme ces deux jeunes gens qui se sont exprimés en langue nationale, affirment en souriant qu'ils vont voter pour les huit, car ils embrassent les idéaux du président Pierre Nkurunziza.
Nous, nous allons voter oui, car nous avons confiance au président actuel. Oui, nous avons confiance en lui. Il m'est difficile de donner les raisons, mais nous allons voter oui.
Oui, nous allons voter pour le oui.
Cet autre Burundais que nous avons rencontré au quartier Rohero, au centre-ville, indique pourquoi il va voter non.
Je vais voter non. Il y a l'accord d'Arusha signé en Tanzanie, qui est le garant de la paix, de la sécurité et du développement au Burundi. Les Hutus, les Tutsis et toi, tout le monde trouve sa place. Changer cette constitution pour les intérêts des uns peut amener le pays dans le chaos.
Ces femmes que nous avons trouvées près de la cathédrale Regina Mundu de la zone de Rohero ont des avis très partagés.
Moi, je suis vraiment très indifférente de la situation du pays actuellement. Ça ne m'intéresse même pas. Ce n'est pas la peine, monsieur. Ce n'est pas la peine, vraiment.
Pour moi, je vais voter oui pour me protéger. Parce qu'il y a la peur ici. Si je vote non, je peux être intimidée. Donc, je peux voter oui pour me protéger, pour rentrer en paix.
Je ne veux pas aller voter. C'est mon choix. J'ai décidé de ne pas aller voter parce que on voit tout ce qui se manigance à propos de ce référendum. Enfin, maintenant, nous voyons ce qui se font. Ça se passe même dans les médias où on impose aux gens de voter le oui ou bien le non. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas se présenter au référendum.
D'autres formations politiques, comme le Rassemblement national pour le changement, se disent inquiètes, car personne ne connaît avec certitude le texte qui sera soumis à l'approbation ou la désapprobation du texte constitutionnel le 17 mai prochain. Les États-Unis sont préoccupés par un référendum constitutionnel qui est interprété comme une réinitialisation du mandat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République démocratique du Congo, fin du conflit entre la société d'État Gécamines et le millionnaire belge Georges Forest. Selon l'accord annoncé mercredi, le groupement du terril de Lubumbashi transfère la pleine propriété de l'usine à la Gécamines. C'est un autre point de marqué par la RDC qui cherche à tirer un plus grand profit de ses ressources minières. De passage à Washington et au micro de Timothée Donagmaï, le PDG de la Gécamines, Albert Yuma Mulimbi.
Le code minier qui était en vigueur jusque-là date de 2002, au moment où on était à la sortie des guerres. Et les avantages qui avaient été concédés aux sociétés multinationales n'ont jamais permis à l'État congolais, aux populations, d'avoir réellement un bénéfice là-dessus. Deuxièmement, à part l'insatisfaction des populations, il y avait l'insatisfaction du partenaire local qui est la Gécamines. Parce que ce que les gens oublient de dire, et surtout les multinationales, qu'elles parlent que nous sommes les grands producteurs de cobalt et de cuivre, c'est que les gisements qu'ils utilisent ont été cédés dans ce partenariat par la Gécamines dans les années 2000-2002, sur instruction de l'État, mais aussi sur recommandation de la Banque mondiale qui estimait que les Congolais ne peuvent pas gérer leur secteur minier. Mais la Gécamines n'a rien bien bénéficié de tout ce qui avait été promis en 2002 en termes de dividendes et de royalties. Et nous avons enclenché des audits qui ont démontré qu'on n'avait rien gagné. Il était temps d'arrêter ces partenariats basés sur cet ancien code minier. Et donc, et la société civile, et la GECAMINE, et finalement même l'État congolais, n'avaient pas retrouvé leur compte dans l'ancien code minier.
Aujourd'hui, la GECAMINE, qui était productrice minière dans le temps, se retrouve à se contenter des royalties. Comment expliquer cela?
Vous savez, moi j'ai eu à le dire souvent que ça avait été une erreur politique économique d'avoir, un, fait le code minier en 2002 et deux, d'avoir obligé la GECAMINE à céder ses gisements dans les partenariats. Vous le savez, quand la GECAMINE est seul producteur, elle produisait près de 500 000 tonnes par an. Elle représentait 60 à 70% des revenus de l'État. Aujourd'hui, avec le code minier de 2002, on a cédé nos mines. On a produit plus de 1 million de tonnes et ces entreprises multinationales ne contribuent même pas à 5% du PIB de l'État congolais.
On parle aussi d'un problème de transparence dans la gestion des revenus miniers dans votre pays. Qu'en est-il?
Quand on parle de transparence des revenus, on oublie de dire ce que je viens de dire, que ces sociétés sont à 80% en moyenne gérées par des entreprises étrangères. On réclame à l'État congolais qui ne touche pas d'impôts sur les revenus, à la GECAMINE qui ne touche pas de dividendes, d'être transparent, quand ceux qui prennent 80% de revenus, je ne suis pas la totalité, on leur demande rien. Le vrai problème de transparence, et je demande à ces ONG internationales d'aller auditer les firmes multinationales. Le problème de la transparence est là. Vous savez ce qu'on a découvert quand on a fait des audits qu'on a commandités chez Ernst & Young? C'est que par rapport aux prévisions qu'ils avaient faites quand on leur avait donné les gisements, leurs charges d'exploitation ont plus que doublé. Les charges financières ont augmenté de 200%. Le coût des investissements a augmenté presque de 3 fois. Mais la production qu'ils avaient promis est exactement la même. Mais tous les coûts ont explosé, ce qui justifie qu'ils disent qu'ils sont en perte. Mais malgré qu'ils disent qu'ils sont en perte, ils veulent encore qu'on ne revise pas le code minier, qu'on leur garde les mêmes avantages. Mais pourquoi ils restent au Congo?
C'était Albert Yuma Mulimbi, PDG de la GECAMINE, la compagnie minière d'État de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Eh bien, en République démocratique du Congo toujours, une nouvelle aérogare à l'aéroport international de Kinshasa. Les travaux de construction ont été lancés mercredi par le président Joseph Kabila. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
354 680 000 dollars américains, c'est le montant qui sera débloqué pour la construction de cette nouvelle aérogare. Elle sera financée à 85% par Exim Bank China, une banque chinoise, et à 15% par le gouvernement congolais. Et sur les 53 millions de dollars qui sont de la part que revient à l'État congolais, le gouvernement a déjà avancé 20 millions de dollars à l'entreprise Witek qui a gagné le marché afin de lui permettre de démarrer les travaux. José Makila, le ministre des Transports et Voies de Communication de la RDC, revient ici sur la particularité de ce projet dont les travaux vont s'étaler sur 3 ans.
Une aérogare de 40 617 mètres carrés, un tarmac de 74 517 mètres carrés, un prolongement de taxiway parallèle et de bretelles de 68 891 mètres carrés, un viaduc de 8000 mètres carrés, un parking d'une capacité de 1200 véhicules et une fontaine, la déviation de boulevard Lumumba sur 5 km, le centre de force motrice, la clôture et les installations combinées, l'acquisition des voitures appropriées, de logiciels et des équipements, enfin le renforcement des capacités du personnel.
La construction de cet aérogare est une réponse aux exigences de modernité et de mise aux normes conséquentes des infrastructures aéroportuaires de Kinshasa, a pour sa part souligné Bilenge Abdallah, le numéro 1 de la régie des voies aériennes. Une fois achevée, poursuit-il, la nouvelle aérogare sera en mesure d'accueillir un flux annuel de 3 millions de passagers et permettra à l'aéroport international de Ndjili d'être un hub international en Afrique grâce notamment à sa garantie de sécurité et de services de haute qualité répondant aux normes de l'aviation civile internationale.
Cet aérogare pimpante se veut la réponse aux enjeux actuels et à venir des transports aériens en RDC et dans la région. Son érection mettra fin Enfin, on embrase une interminable critique comparative sur la capacité de l'aéroport international de N'Djili de disposer d'un terminal passager à la hauteur de la taille de notre pays, carrefour aérien de premier ordre.
La population environnante présente au lancement des travaux appelle de son côté au respect du délai des travaux et espère que l'ouvrage sera bien achevé et bénéficiera surtout d'un entretien conséquent.
J'aimerais qu'il y ait du sérieux dans le respect du timing. C'est un projet, nous le savons tous, en planification de projet, chaque projet a un délai. Donc il y ait une équipe de supervision qui pourra contrôler l'évolution des travaux exécutés, mais surtout que le gouvernement de la République veille à la bonne exécution du projet.
D'abord, l'achèvement de l'ouvrage, parce que beaucoup de travaux ont été lancés dans ces pays, mais ça n'aboutit pas à leur fin. C'est ainsi que la première recommandation revient à l'achèvement de cet ouvrage d'importance capitale.
On réfléchisse à long terme au mécanisme d'entretien, n'est-ce pas, et de surveillance aussi. Mais à la fin, une bonne éducation, je crois, une sensibilisation de la population, des usagers, mais aussi du personnel qui travailleront dans cet aérogare.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Guitariste, chanteur et compositeur, cet artiste congolais se démarque de la musique congolaise classique. Djadja, et c'est son nom, Trésor Matondo l'a rencontré pour vous.
Djadja Bashengezi, artiste musicien congolais, résident aux États-Unis. Je fais de la musique. Ma musique a une influence très spécifique. Je ne suis pas politicien, je suis un artiste, mais un artiste qui peut aussi éduquer la masse, un artiste qui peut aussi exposer l'injustice. C'est à travers les artistes, Peter Gabriel et les autres, ils ont joué, ils ont fait un grand concert en Afrique du Sud, et ça n'a pas pris beaucoup de temps, Mandela a été libéré. C'est pour vous dire que la musique, c'est un véhicule important qui peut apporter un changement. Je trouve une manière très facile de m'exprimer à travers ma musique, parler de l'histoire que j'ai vécue et de l'histoire présente que je suis en train de voir à travers le monde pour le moment. Ma seule façon de pouvoir contribuer à ça, c'est d'écrire ça dans la chanson. Une situation qui se présente maintenant, par exemple, dans notre pays, le Congo, j'ai déjà écrit à cette chanson. J'en parle chaque fois que j'en trouve une opportunité, non pas seulement de mon pays, je parle du Soudan, je parle de la Syrie, l'afflux des réfugiés à travers le monde. Ça fait mal, que le monde a besoin de l'humanité et de l'amour pour le monde. Quand je joue un certain style, c'est pour un objectif donné. Alors je me suis dit, avec ce genre de chansons que je vais écrire, je vais m'attacher beaucoup plus à la musique acoustique. Je vais m'inspirer beaucoup plus de la musique traditionnelle de chez nous, la musique traditionnelle de l'Afrique. C'est vraiment une musique africaine, mais basée sur le rythme traditionnel de chez nous. J'ai entendu les gens me dire, bon voilà, c'est bien, me rappelle un peu de Richard, you know, c'est bien, mais ta voix là, c'est un peu comme Lokwa. Il y a d'autres qui me disent, bon voilà, c'est un peu comme Carlito, voilà. Bon, l'inspiration vient de partout.
Le monde monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.